direct.
Le 5-7. Debout. Debout. Entre chien et loup.
Couchez. Couchez.
Laurence Garcia.
Les femmes sauvages n'ont pas de pudeur car elles sont nues, les nôtres en ont encore moins car elles s'habillent. Que dirait Rousseau de nos débats sur la burqa ou le bikini? Cacher ce visage que l'autre ne doit pas voir ou montrer ce sein que l'autre désire? L'impudique porte tous les masques, qu'ils soient censeurs, barbus, moralistes, bimbo ou politiques. Alors que diraient nos vieux philosophes de la société du spectacle et du tout dire, du tout montrer, au nom de la transparence démocratique et technologique? L'heure n'est plus pudique, mais au cynique. Un cynique décomplexé à l'idée d'étaler son moi-jeu pour exister dans le striptease de Facebook. La pudeur, quel drôle de mot, limiterait trop un brin réac, on en reparlera. Qu'en est-il donc de ce tact de l'âme, de cet art du mystère dans une société de pubeux exhibitionnistes et de consommateurs voyeurs ou vice-versa? Pour en parler, un homme, une femme, en vrai, en direct donc, un litre de café, des madeleines et des histoires de pudeur et d'impudeur bien ou mal placé. Jean-Claude Bologne, historien de l'intime, pour résumer, romancier, essayiste, auteur de polars pastiches, amateur de jeux de langue et de voiles à peine voilées. Francine Barthes, une géographe de la nudité, pour résumer, qui explore la planète des antitextiles, des nudistes balnéaires, des naturalistes contestataires, des apoilistes festifs, bref, du nu sous toutes les latitudes. Un homme, une femme, un historien pudique, c'est ce qu'on verra, une géographe naturiste, j'en sais pas trop encore, mais quoique, pour une rencontre arrangée d'un 5-7 version matin. Bienvenue. Bonjour monsieur, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je ne sais pas si vous êtes pudique, historien certes, Jean-Claude Bologne, et si vous êtes naturiste, géographe certes, Francine Barthes.
Nous sommes tous un peu pudiques quelque part.
Exhibitionniste quelque part.
Et exhibitionniste, sinon nous ne serions pas ici.
Dit-il. Une géographe et un historien, voilà déjà un couple qui se complète bien. La nudité, la pudeur, vieux couple aussi, à deux mais à trois, parce qu'il va falloir rajouter, on a le temps, on va prendre le temps du temps, mais la morale, la vertu, la dignité, le regard de l'autre. C'est des vieux couples, mais ils sont à plusieurs hein, quand même. Hein.
Oui, ce livre est parti d'une idée qui
alors
me traverse.
Alors ce livre, c'est Pudeur féminine.
Voilà,
il va très vite déjà.
Mon idée de consacrer à la pudeur féminine, plus particulièrement qu'à la pudeur masculine, qui est un autre vieux démon, un ouvrage, est venue de cette idée que j'ai depuis un certain temps, que la pudeur ne se fait pas d'une façon linéaire entre nudité et habit à deux, mais effectivement à trois. Il y a la nudité, il y a le vêtement, et puis il y a ce qu'on a toujours appelé la nudité pudique, l'innocence, la nudité voilée. Et c'est l'histoire de cette troisième dimension de la pudeur, ce que j'ai appelé non pas le voilé ni le dévoilé, mais le révélé que j'ai envie de raconter. Donc effectivement, lorsque vous dites ce n'est pas un couple de nudité, habit, non, il y a quelque chose de plus, il y a cette dimension de la nudité voilée, mais on pourrait aussi ajouter une quatrième dimension, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure en citant Rousseau, d'un habit impudique. Donc ce n'est pas aussi simple que on est impudique quand on est nu et on est pudique lorsqu'on est habillé. Non, ça ce sont de vieilles idées du 19e siècle.
Alors avant d'aller dans les dessous de ces sujets-là, il est très tôt, il est 5h07. Déjà, je voulais quand même remercier, ma chère, j'ai perdu votre nom, la Francine Barthes, j'ai dit à Régine, il est tôt, parce que vous avez accepté notre invitation, notre proposition malhonnête au pied levé, la veille au soir, parce que nous devions recevoir un historien de la fessée, un spécialiste de la fessée, l'écrivain Jean Fexas et le fesseur Égrippé, donc merci. Juste petite question vous concernant l'un et l'autre, je parlais de l'historien de l'intime et de la géographe de la nudité, quelle réputation vous avez vous par exemple auprès de vos camarades, collègues du CNRS quand on s'intéresse par exemple à la nudité en tant qu'objet d'études géographiques? C'est pas très commun, c'est pas très conventionnel, non?
Non, c'est pas très conventionnel, mais Je crois que dans les institutions de recherche, les universités ou CNRS ou les instances institutionnelles, on va dire, les sujets de recherche, à partir du moment où ils sont argumentés, ils sont posés en tant qu'objet de recherche, qui s'inscrivent dans une réflexion avec où on pose il y a tout un vocabulaire convenu. On est sur des paradigmes, on est sur des problématiques.
Tout ça passe alors.
Mais c'est-à-dire que on ne peut pas arriver en disant, en faisant sa maligne et en disant pourquoi pas la nudité. Ça se fait absolument pas comme ça. On commence par présenter des projets dans le cadre de laboratoire, par exemple. Ensuite, on va parler à des colloques. Ça va être entendu. On va nous poser des questions. On va aller nous chercher sur.
Est-ce qu'il faut plus argumenter, entre guillemets? Est-ce que c'est un sous-objet?
Je pense que oui. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui. Enfin, c'est un peu récent. Comme je sais que vous êtes parfaitement au courant de tout ça, les gender studies, ces nouvelles études là sur les orientations sexuelles, la sexualité, le féminisme, etc. Ça fait partie des subaltern studies, c'est-à-dire des objets qui sont qui sont assez extravagants, on va dire, mais tellement évidents, tellement impensés. Finalement.
Ouais, hein, c'est
parce
ça.
Ils sont là, ils sont.
Il y a tout à inventer, alors, ou à tout à réinventer.
Oui, mais ce sont des allants de soi. Mais je pense que M. Bollum sera d'accord avec moi. La pudeur, ça ne demande même pas à être questionné, tellement tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Mmh. Alors, dès lors qu'on se met à s'interroger sur les articulations qu'il peut y avoir, le regard de l'autre, comme vous disiez tout à l'heure, là, c'est une autre affaire. Et là, on est dans un vertige, hein, parce que y a des grands noms qui ont travaillé, et puis on a nos réflexions à porter. Hein.
Il y en a eu des philosophes éminents qui sont penchés sur le cas de la pudeur en même temps.
Il y a eu énormément de philosophes depuis l'Antiquité grecque, des philosophes et des penseurs féminins. C'est relativement récent, ça date d'une vingtaine d'années, mais il y a eu pas mal de réflexions. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur la pudeur, c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde a beaucoup à dire. En tant qu'historien, c'est un petit peu différent. Depuis le premier livre que j'ai consacré au sujet en 86, ça ne me rajeunit pas, je me suis rendu compte qu'on aborde chaque fois l'histoire de la pudeur avec nos concepts modernes. Et j'ai eu envie de réécrire une histoire de la pudeur avec les concepts du temps. Et la façon dont on réfléchit à la pudeur en Grèce, à Rome, au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ce ne sont pas du tout les concepts modernes. Mmh. Et il y a tout un discours sur l'histoire de la pudeur à réinventer en fonction du regard du temps. Et c'est ça qui me fascine dans l'histoire. Ce n'est pas de projeter mon propre regard dans l'histoire et d'aller dans l'histoire comme un musée avec mon regard d'occidental du XXIe siècle. C'est de retrouver chaque fois le regard de l'époque. Et là, c'est une discipline qui n'est pas si fréquente que ça.
Et bien justement, Jean-Claude Bollum, vous avez beaucoup travaillé aussi sur les concepts de célibat, de conquête amoureuse. Est-ce que quelque part aussi, c'est une manière de dire que l'histoire de l'intime, les grandes idées de l'humanité, il y a les grands hommes, mais il y a aussi les émotions. Il faut se pencher un petit peu plus sur ces histoires-là qui ont autant d'importance que l'histoire avec un grand H. Là encore, ce qu'on vous a dit souvent, tant t'es gentil, mais c'est des histoires de bonnes femmes, tes trucs, non?
Non, je n'ai pas encore entendu ça, mais ça pourrait. Pourquoi pas. C'est encore plus flagrant, effectivement, sur l'histoire du sentiment amoureux. Lorsque vous regardez un film qui se prétend reconstitution historique, tout le monde tombe amoureux comme au XXe siècle. Alors que vous ne pouvez pas tomber amoureux d'une femme, ou d'un homme d'ailleurs, si vous vous adressez à son âme immatérielle ou à son ça inconscient. Ce n'est pas le même discours et c'est pas la même façon de tomber amoureux. Donc il y a une histoire des sentiments que l'on n'écrit pas avec nos concepts modernes. Il faut chaque fois retrouver le regard de l'époque.
Et on verra ce matin, on a le temps, de savoir si on n'est plus à l'heure du pudique ou de la pudique, mais de l'impudique et du cynique. Tout ça rime en hic. On a le temps, hein, d'y répondre.
Nous vous répondrons.
Voilà. Avec une géographe de la nudité, un historien de l'intime et des madeleines, nous verrons en quoi notre rapport au corps nu ou pas, ou au corps intime, en dit long sur la morale et les morales de notre société. Bienvenue à vous, France Inter. Il n'est que 5h13, il fait froid dehors, il fait encore nuit. Et c'est Anne Pierlé pour commencer. Deux invités, Francine Barthes, géographe de la nudité. Ça vous va si je vous dis géographe de la nudité, Francine Barthes?
Ben non, parce que j'ai pas seulement cette compétence-là, vous voyez.
Non, je vois pas.
Vous voyez pas, je vais vous expliquer. Donc, je suis enseignant-chercheur, géographe. Parce que je me suis intéressée à la nudité, mais pas que à la nudité.
Mais pas
je
que.
Je me suis intéressée à d'autres sujets.
Historien d'intime et de la pudeur, mais pas que, Jean-Claude Bologne, pour raconter des histoires de pudeur, d'impudeur, de nudité, être nu quelque part. On s'était rencontrés à ce propos, hein, pour ce livre-là. Oui. Jean-Claude Bologne, déjà, la pudeur, voilà un drôle de mot, j'en parlais en introduction. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est un mot qui fait rétro, ringard ou réac, ça on en reparlera. Mais c'est quoi la pudeur finalement? Parce que la pudeur de soi, de l'autre, des sentiments, de son propre corps, fameux voile immatériel.
Oui, si l'on veut donner une définition de la pudeur, ça recouvre tellement de choses qu'il faut une définition très vague. Donc je l'ai définie à peu près de mémoire comme une disposition plus ou moins permanente, plus ou moins prononcée selon les individus, selon les époques, à dissimuler ce qui nous semble une fragilité ou une intimité. Mais selon les époques, ce qu'on ressent comme une fragilité ou une intimité va changer. Dans les époques très marquées par la conscience chrétienne d'une chair pécheresse, la nudité est sentie comme une fragilité, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mmh. Et donc, il y avait une pudeur de la nudité du corps extrêmement forte.
La honte aujourd'hui, de la nudité
du coup, la pudeur est extrêmement liée à la honte. Aujourd'hui, le regard sur le corps et sur le corps nu a changé. Donc, il y a nettement moins de pudeur corporelle qu'au XIXe siècle, c'est assez évident. En revanche, il y a beaucoup d'autres types de pudeur auxquelles on ne pense pas nécessairement. La pudeur des sentiments, bien entendu, la pudeur du langage, mais aussi la pudeur de l'argent. On ne dit pas, on ne parle pas de ce qu'on gagne, de ce qu'on vit de la même façon en France ou aux États-Unis au XXIe siècle ou au XIXe siècle.
C'est une pudeur, ça, de ne pas parler forcément...
C'est une forme de pudeur-honte, oui. Il n'y a pas que cela, mais il y a aussi de la pudeur-honte. Il y a une pudeur, j'en ai parlé un jour avec un ami très croyant, une pudeur du signe de croix. Il y a 3 siècles, vous le voyez matin, vous faites 3 signes de croix, tout le monde se signait dans la rue. Aujourd'hui, non. Il y a une certaine pudeur du sentiment religieux. Oui, tout cela, c'est aussi de la pudeur. Il y a une pudeur du rire, il y a une pudeur des larmes. La pudeur masculine est largement une pudeur des larmes. On m'a répété toute ma vie, un homme, ça ne pleure pas. Tout ça, c'est aussi de la pudeur. C'est-à-dire, tout ce que l'on ressent comme quelque chose, une fragilité, parce que ça nous rendrait ridicule aux yeux des autres, est susceptible d'élever ce que Freud appelait la digue de la pudeur.
La fameuse digue. À partir de quel moment on a associé la pudeur à la notion de digue? Où elle s'est justement, où on parle de pudeur féminine et masculine, pourtant il y a des pudeurs toutes viriles.
Alors, oui, c'est vrai que la pudeur ayant été 99 fois sur 100 associée à la nudité et le corps féminin historiquement et culturellement se montrant moins que le corps masculin, on a assimilé la pudeur à une pudeur féminine. On a essayé à toutes les époques de justifier cette pudeur féminine. Pour la petite histoire du temps des Romains, Pline prétendait que le corps des noyés, des femmes qui se noyaient, flottait toujours la tête en bas et celui des hommes flottait la tête en haut, parce que même morte, la femme conservait sa pudeur et ne montrait pas son devant. Donc on a toujours essayé de justifier cette pudeur féminine, qui est un fait culturel et historique, encore une fois, qui n'est pas du tout un fait naturel. Et effectivement, c'est parce qu'on a surtout parlé de la pudeur du corps. Si on parlait de la pudeur des larmes, on serait plutôt amené à parler de la pudeur masculine. En revanche, on disait que les hommes, ils n'étaient pas pudiques naturellement, mais ils étaient astreints à une certaine modestie, c'est-à-dire à des règles de décence, des règles sociales et non pas des règles naturelles.
D'ailleurs, elle vient d'où cette expression « dame la pudeur » On féminise cette notion-là, « dame la pudeur
» Oui, ça c'est un phénomène purement linguistique en français, en tout cas, les noms abstraits sont très généralement féminins, parce qu'il était en latin. Alors, dame pudeur, mais je voudrais aussi qu'il y a le père la pudeur, qui était le censeur, en revanche.
Oui.
Et toutes les divinités de la pudeur étaient des divinités féminines dans l'Antiquité.
Et dites-moi, Francine Barthes, vous qui avez travaillé sur la notion de nudité, en tant que géographe, être nu quelque part, on n'est pas nu de la même manière en Afrique qu'en Europe ou en Amérique. La notion de pudeur, c'est un sentiment complètement universel qui se traduit autrement, que l'on soit dans le nord ou dans le sud. C'est une notion sur laquelle vous êtes penché, vous, en tant que géographe, forcément.
La notion de pudeur, ouais. pas tellement. Mmh. Évidemment, c'est extrêmement intéressant. Moi ce qui était complètement central dans mon propos, c'était le fait que la nudité se définisse, c'est-à-dire qu'on voit surgir des types de nudité qui se définissent par rapport au lieu où cette nudité se déploie. Alors après, je pense que l'étape d'après, c'est l'étape de Jean-Claude Bologne, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur cette nudité qui se donne à voir, ou qui se cache d'ailleurs, dans certains lieux. Ça signifie quoi très concrètement? Ça signifie que quand vous êtes nu dans votre salle de bain sous la douche, et ou quand vous êtes nu, alors je vais prendre des exemples féminins et puis masculins après, quand vous êtes nu, quand vous vous dénudez pour finir nu, dans une salle de striptease, avec la barre
entre les jambes,
la pole dance, là, vous savez, ça fait tout peut-être pour parler de ça le matin.
Je sais pas, je regarde en régie, ils sont tous en train de me dire non mais ça va pas ta tête.
Donc, vous voyez bien que nous avons affaire à des nudités qui s'inscrivent dans des espaces complètement, des lieux complètement différents. Il y en a un qui est la salle de bain, qui est un lieu, alors on va dire, intime, c'est-à-dire, parce que là, c'est le lieu qui m'intéresse, c'est pas l'intimité.
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire que c'est une pièce qui est fermée, et elle a mis du temps à se fermer, la salle de bain. D'abord, elle a mis du temps à exister, la salle de bain. Et puis...
elle a mis du temps à pas être collective non plus.
Ensuite, elle a eu du temps à se fermer. Bon, c'était des cabinets de toilettes, etc. Et donc, cette nudité-là n'a rien d'indécent. Mmh. La pudeur n'a pas sa place, là. Et c'est une nudité qui est individuelle et qui est surtout rattachée à l'hygiène, c'est-à-dire qu'à une fonction. Si je renvoie ça, je compare
la salle de striptease.
Salle de striptease, on est dans un lieu qui est, alors non pas public, mais en tous les cas ouvert à un certain public, qui est un public masculin, qui regarde un corps féminin, qui se dénude. Donc on est sur un spectacle, sur une mise en scène, et là on est sur du dévoilement, etc. Et on joue sur tous les codes, justement, de... transgression, subversion, tout ce que vous voulez. On n'a pas du tout le même. On a un nu qui est sexualisé et qui joue, qui danse, etc., avec des poses lascives, qui suggèrent, qui invitent, etc. Et donc ça, c'est un spectacle. On a payé pour le voir, etc. Vous voyez, donc on a des nudités qui sont complètement différentes,
ouais,
là.
Après,
on pourrait multiplier les exemples, hein. La nudité sur la plage, la nudité des rugbyman dans leur dans les douches collectives,
ou enfin, sur les calendriers. On reparlera du nu calendrier.
Voilà.
Du
donc à chaque fois, vous voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est parce que ce nu est situé et comment dire, il se définit par rapport au lieu dans lequel il se situe.
D'ailleurs, Francine Barthes, vous parliez de plage, etc. Jean-Claude Bologne, la suite là de ce chapitre, ce large ouvrage sur les pudeurs féminines, c'est venu en 2009, quand on a parlé de la guerre des piscines, le fameux débat. Non, c'est venu un peu
sur le
burkini.
Le burkini.
Donc, la burqa et le monokini, bikini, en disant bon ben voilà, on va commencer un petit peu à interdire l'accès aux aux piscines aux femmes qui se trimballent seins nus.
Ce qui est intéressant, c'est que le même été en 2009, qui était l'été où je finissais d'écrire cet ouvrage, il y avait à la fois une réaction de décence qui disait que c'était fini les seins nus aux piscines, et une guerre aussi contre le burkini, c'est-à-dire qu'on s'indignait autant d'une nudité excessive que d'une pudeur, honte excessive, pour des raisons tout à fait différentes. Ça veut dire que on commençait, parce que je pense que c'était une fièvre d'un été, à perdre l'innocence du regard sur le corps dans la piscine. Or, c'est ce que Francine Barre disait tout à l'heure, il y a des espaces de ce qu'on appelle une nudité coutumière, où il est normal d'être nu, c'est dans l'intimité de sa salle de bain, et à la fin du XXe siècle, on avait commencé à élargir sur certaines plages, qui n'étaient pas seulement des plages nudistes ou naturistes, ce regard sur le sein féminin qui avait totalement perdu son impudeur et qu'il est en train de récupérer depuis quelques années. Et effectivement, cette guerre à la fois contre le sein nu et contre la tenue intégrale, le maillot de bain intégral, le burkini, est très caractéristique de cette évolution de la pudeur au cours de ces quelques dernières années. Et si on élargit un petit peu, on se rend compte que les nudités coutumières, ça nous semble naturel. C'est naturel d'être nu dans sa salle de bain, c'est hygiénique. Mais non seulement ça n'a pas toujours existé, mais à certaines époques, la pudeur individuelle était telle que les manuels de savoir-vivre, au lieu d'apprendre la pudeur, au lieu d'apprendre à se cacher, devaient apprendre aux femmes à s'essuyer les parties intimes, parce qu'elles n'osaient pas le faire. Elles prenaient leur bain en chemise, elles s'essuyaient vaguement, et bien entendu, le trop d'hygiène entraînait un défaut d'hygiène, et le fait de ne pas pouvoir s'essuyer faisait que...
Il n'y avait pas de manuel pour les hommes non plus ?
Pardon ?
Il n'y avait pas de manuel pour les hommes
Les hommes n'étant pas soumis aux mêmes règles de pudeur n'avaient pas ce genre de réticence. Ouais. Et donc la nudité coutumière varie d'une époque à une autre. Le Moyen-Âge était très pudique dans certains domaines, et notamment dans la représentation. Mais en revanche, les toilettes communes, ça existait, et ça ne posait pas de problème particulier, parce que le regard avait ce voile naturel qu'on a acquis dans d'autres lieux, pour reprendre l'aspect géographique, et qu'on a perdu dans certains domaines.
Les histoires de pudeur féminine de Jean-Claude Bologne. Toute femme sans pudeur est dépravée, ça c'était Rousseau. La pudeur n'est-elle pas toute femme, point d'interrogation, s'interrogeait Balzac. Jean-Claude Bologne, vous disiez finalement que l'histoire de ces pudeurs, des pudeurs au féminin notamment, était souvent écrite, analysée, décortiquée par les hommes, et que ça fait quoi, juste une petite vingtaine d'années que les femmes se penchent, et on parle du regard toujours, de ce vieux ménage à trois, que ce soit la nudité ou la pudeur, et ce troisième personnage qui est le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'elles ont apporté du coup, ces femmes-là, sur cette histoire-là, oui, cette vieille histoire de la pudeur ?
Ça a changé fondamentalement le regard sur la pudeur. La pudeur féminine vue par les hommes a toujours, à quelques rares exceptions près, était envisagé sous le concept de honte. La femme nue, c'est ce qui tente l'homme, et lorsqu'il ne doit pas être tenté, la femme doit avoir honte de tenter l'homme. Ce que, depuis une vingtaine d'années, le regard de certaines femmes, de Claude Abine, etc., je vais en oublier si je commence à en citer, a changé sur la pudeur, c'est de l'étudier au nom du concept de respect. Donc passer d'une pudeur honte à une pudeur respect, de dire la pudeur, ce n'est pas avoir honte de sa nudité et devoir la cacher, mais c'est respecter son intimité et ne pas accepter de la dévoiler totalement à autrui. C'est un regard qui s'intériorise, donc, plutôt que d'être ce regard extérieur sur la nudité de l'autre. Et cela, c'est on peut suivre depuis deux siècles à peu près l'émergence progressive de cette pudeur respect, mais c'est vraiment depuis une vingtaine d'années que on a presque totalement abandonné le concept de pudeur honte pour aller dans une pudeur respect. Bien entendu, l'histoire est en évolution permanente et nos sociétés étant multiculturelles, il y a d'autres types de pudeur honte qui réapparaissent dans les sociétés occidentales. Mais le gros apport des penseurs féminins sur l'histoire de la pudeur, c'est vraiment cette notion de respect.
Il y a une pudique, une impudique, il y a une bonne et une mauvaise nudité, Francine Barthes, ou c'est un peu plus compliqué que ça?
Oula. C'est un peu plus compliqué. Je prends la deuxième. je coche la deuxième case. Moi, j'avais envie de répondre à Jean-Claude Bologne là sur. Il y a quand même toujours fondamentalement des questions de normes sociales qui sont imposées et qui finalement construisent des nudités qui sont tolérées, tolérables, acceptées, acceptables. Entre les deux, alors peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas une spécialiste de la pudeur, mais entre les deux, il y a cette espèce de voile, d'interface qui est la pudeur et puis qui est assez mouvante hein, finalement, qui se définit suivant les époques différemment. Bon, ces histoires de, alors bonne ou mauvaise nudité, ces histoires de normes, je crois que les femmes ont beaucoup contribué à changer ça. Bon, peut-être pas suffisamment. Alors ça dépend de quel point de vue on se place. Mais on a quand même bien fait exploser ces contraintes, ces normes. Enfin, le 19e, c'était le corset. C'était elles en mouraient, les femmes, d'être oppressées. Enfin, il y avait des pathologies qui étaient...
Sauf qu'aujourd'hui, il y a peut-être d'autres corsets invisibles, comme on parlait aussi d'autres voiles immatérielles invisibles aujourd'hui, non ?
Oui. Ça a été, oui, la chirurgie. Eh ben, ça renvoie à ce que vous disiez. C'est-à-dire que maintenant, c'est complètement incorporé.
Ouais.
Hein, on incarne la contrainte au sens...
On incarne la contrainte.
Il y a encore des contraintes et qui sont beaucoup plus violemment ressenties du côté féminin que masculin. Oui, on peut montrer son corps, mais c'est un corps culturé. Le tabou du poil chez la femme. Oui. On se montre nu, oui, mais à condition qu'on soit épilé. Il y a d'autres contraintes qui sont nées du fait de la libération de certaines contraintes. On ne montre pas une nudité sauvage. On montre une nudité culturée.
Et ça reste la nudité du sauvage.
Ça veut dire qu'on a toujours besoin d'un voile. Et dès que l'on a enlevé le voile physique, on a besoin d'un voile invisible.
Le bronzage
et l'épilation sont les deux contraintes du corps nu actuel. Plus la fermeté. Vous ne montrez pas un corps avachi.
Il y a le corps photoshopé aussi en même temps, hein, dans le nu publicitaire.
Tout à fait. Et là, ce sont les contraintes qu'on nous impose aujourd'hui parce que nous avons gagné la nudité, mais c'est un voile immatériel qui est imposé et qui peut être beaucoup plus contraignant parce que c'est facile de mettre un costume. C'est beaucoup plus difficile de faire de la musculation, de faire des ultraviolets, de s'épiler. Et on a gagner des contraintes corporelles en perdant des contraintes vestimentaires.
Et on parlait tout à l'heure de lutte des classes ou pas, et là, nous, on est dans le corps aristocratique, finalement, de la nudité aristocratique, musclée, bronzée...
Oui, aristocratique, non pas dans le sens de classe.
Oui, non, bien sûr.
Effectivement, dans le sens du meilleur, on est dans une sorte de tyrannie de la beauté idéale. Les hommes sont obligés d'être des surfeurs californiens, et les femmes sont obligées d'être modèle publicitaire. Oui, effectivement, il y a cette tyrannie de la beauté qui s'impose à nous.
Francine Barthes, vous qui avez énormément analysé, travaillé le nu publicitaire ou le nu contestataire, on en reparlera aussi du nu politique, d'utiliser son corps et sa nudité pour manifester, etc. Le tabou du poil, hein, on l'explique comment ? En tout cas ici en Occident, hein, puisque vous êtes géographe.
Le tabou du poil, il existe dans toutes les cultures, hein. C'est-à-dire que la nudité, Lévi-Strauss en avait parlé en faisant l'analogie cru et cuit, en fait.
Cru et cuit.
Oui, oui, oui. L'homme qui n'a aucun marqueur, l'homme qui naît dans une tribu, je sais pas, des Bororo au Brésil, puisque c'est ce que Lévi-Strauss a le plus étudié, il est l'enfant qui naît dès qu'il arrive au monde, le groupe se l'approprie en le marquant, en lui mettant des petits, des attributs qui disent que c'est un petit homme, ouais. Ça n'est pas un animal. Mmh. Pour revenir au poil, le poil dit que
c'est un marqueur.
On fait partie de cette des hommes, de la société des hommes, qu'on soit homme de la forêt amazonienne ou...
Mais ça veut dire qu'on gomme finalement l'empreinte et le marqueur de la virilité alors dans ces images lissées ou pas des hommes
virilité dans la pub, par exemple.
Oui.
Il faut bien se rendre compte que la pudeur est une question de prise de conscience. Et c'est un phénomène spécifiquement humain. Les deux qui n'ont pas de pudeur, ce sont les animaux et ce sont les dieux. Et entre les deux, il y a les hommes qui ont conscience de leur nudité et donc qui peuvent être pudiques. Et à partir du moment où la nudité redevient consciente, la pudeur n'a plus lieu d'être. Mais ça, c'est un leurre. Il n'y a de nudité que culturée. Et c'est ce que vous disiez avec les Bororo. Dès qu'on est nu, il y a un autre voile qui se met en place et ça c'est notre condition d'homme et d'être conscient. Nécessairement, il y a une pudeur qui vient quelque part et qu'on ne remarque pas.
De deux invités en direct, Francine Barthe et Jean-Claude Bologne. On parle d'histoire de pudeur, d'impudeur, de corps, de nudité, au pluriel toujours, hein, d'ailleurs, comme il y a des pudeurs féminines au pluriel. Francine Barthe, vous qui avez travaillé notamment sur tous ces mouvements contestataires où on utilise le corps nu, notamment c'est assez présent chez les mouvements alter, écologistes, où on est nu face aux forces de l'ordre, hein, c'est un mieux vieux mouvement, ça d'ailleurs, hein, qui remonte quoi au 19e ou pas en Allemagne.
C'est un peu délicat de qualifier ça de mouvement parce que au départ on est plutôt sur des initiatives qui proviennent de groupes, de groupuscules qui sont attestés. Alors là, en histoire, on voit les premiers mouvements qui sont liés aux groupes anarchistes ou anarcho-syndicalistes, mais plutôt anarchistes pacifiques. Donc on n'est pas du tout dans des mouvements de masse, ni dans des mouvements organisés, mais on est plus sur des expressions vraiment de contestation et qui utilisent des moyens qui sont finalement assez... qui mobilisent les corps des personnes, quoi. Donc c'est assez rapide pour...
C'est du happening, quoi.
Et non, c'est pas du happening. Au 19e siècle, quand on a des refus d'obéissance, là, ces mouvements antimilitaristes, c'est pas du tout des happenings. Il y a un côté vraiment extrêmement subversif et qui est puni de prison. Enfin, bon, c'est quand même...
C'est le refus de porter l'uniforme, finalement, que de protester
Oui, le refus de porter l'uniforme, le refus de partir à la guerre, c'est se servir de son corps pour exprimer d'une façon extrêmement efficace l'objet de ce refus. C'est-à-dire, je suis un homme fragile, vulnérable, etc. Je refuse de prendre les armes.
Sans masque et sans voile. Ça, c'est un sujet qui vous a intéressé, Jean-Claude Bologne, dans ces histoires de pudeur.
Oui, parce que l'impudeur est une forme de pudeur. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez votre corps et votre nudité pour choquer, pour agresser, pour contester, si la pudeur n'existe pas, il n'y a aucune... rien ne vous choque. Et effectivement, les mouvements contestataires qui ont utilisé la nudité, c'est parce que la société vivait dans une pudeur extrêmement forte. Et aujourd'hui que la pudeur du corps a pris d'autres détours, la nudité est nettement moins impudique. Et vous parliez de happening tout à l'heure. Les mouvements contestataires qui utilisent maintenant la, la nudité, utilise plus une nudité festive. Et c'est ce que Francine disait, c'est pour montrer la fragilité, notamment les mouvements écologistes. Oui. Lorsque vous avez des happenings, c'est pour montrer que l'homme est fragile et qu'il faut protéger la nature. Les mouvements cyclistes ont pratiqué le cyclonudisme pour montrer que l'homme en deux roues est fragile par rapport aux voitures, etc. Donc il n'y a plus ce côté contestataire de la nudité parce qu'elle est beaucoup plus, pas totalement, mais beaucoup plus centrée dans les mœurs.
Donc la guerre des images aussi, dans la bataille des images.
Le pouvoir de la nudité dépend de la pudeur, de la force de pudeur d'une civilisation.
Avec des corps normaux, des corps nature et pas des corps de pub, des corps photoshopés aussi.
Et alors aujourd'hui, effectivement, ce qui devient heureusement pas pour tout le monde, mais impudique et donc choquant, est le corps nu dégradé. Il y a encore des gens qui ne l'acceptent pas, pour qui un beau corps de jeune fille nue, il y a aucune impudeur, mais dès que les chairs commencent à s'avachir, bizarrement, ça devient impudique. Ce qui veut dire qu'il y a encore cette notion de désir qui reste derrière la pudeur. On ne se débarrasse pas si facilement des vieux démons.
Et du beau.
Et de ce qu'on considère comme beau. Parce que le beau, c'est comme la pudeur, c'est un regard que l'on porte sur la nudité et qui est vraiment culturé.
La notion de nudité publicitaire ou la notion de nudité contestataire, être nu quelque part, ce qui vous intéressait, vous, Francine Barthes, c'était le nu en Occident, le nu en Amérique latine, ces concepts-là d'indécence, d'hygiène, parce que la pratique hygiéniste de l'un n'est pas la pratique hygiéniste de l'autre. Comment avoir une espèce de géographie un petit peu, même si... De ces nudités-là, exploitées ou pas.
C'est finalement relativement simple. On a le monde qui se dessine, enfin qui identifie des grandes sphères culturelles qui fonctionnent à partir des normes qui sont plus ou moins, en gros, imposées par les religions. C'est-à-dire qu'on a, dans la sphère judéo-chrétienne, on a des normes de nudité qui sont à peu près similaires. Dans la sphère islamique, enfin musulmane-islamique, on a un autre type de registre et un autre type de rapport à la nudité, avec d'autres lieux où la nudité peut se montrer ou pas. Je pense au hammam, par exemple, avec donc une nudité collective.
Non mixte.
Non mixte, tout à fait. Alors, soit avec des édifices particuliers, soit avec, à l'intérieur d'un même édifice, des journées pour les hommes ou pour les femmes, ou avec des salles différentes, etc. Mais on a aussi une nudité, alors là, c'est la nudité hygiénique, qui est un véritable art de vivre, avec une sophistication dans les gestes, les habitudes, enfin je pense aux parfums, à l'épilation dont on parlait tout à l'heure, au henné, au massage, enfin bon, on est vraiment dans un soin extrêmement sophistiqué qui est apporté au corps et on est dans un autre type de sphère culturelle. Et puis en Asie, on a les bains, les onsen japonais ou en Chine aussi, parfois mixtes, avec une nudité qui est totalement tolérée. Et ce qu'on appelle, enfin c'est Hans-Peter Dürr qui parle de ça, du regard fantôme, hein, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont dans des espèces de piscines naturelles au milieu de la nature, au milieu d'une végétation absolument formidable. Enfin bon, on imagine ces paysages là un peu japonais et
rapidement Francine parce que j'ai
oui et alors le regard fantôme. On est l'un à côté de l'autre, homme et femme nus, mais le regard est fantôme, c'est-à-dire qu'il s'absente à l'autre.
Vent et vivante, monsieur et madame l'historien géographe.
Avec quand je prends conscience qu'en sortant de ce studio je ne serai plus vrai.
Comment ça vous serez plus vrai?
Vous dites on a des invités en vrai, j'ai l'impression que je vais sortir, je ne serai plus vrai.
À ces heures-ci on a tellement l'habitude des folies règles des boîtes, donc j'insiste et pour d'ailleurs saluer le courage de l'un et de l'une. On parle des pudeurs, de rapport au corps. Très personnellement, Jean-Claude Bologne et Francine Barthes, qu'est-ce qui, chez vous, déclenche la pudeur? Qu'est-ce qui vous fait rougir, par exemple?
Oh, moi, je rougis pour un oui ou un non. Je trouve ça très, très, très agréable. Je sais pas, il n'y a rien en particulier qui me fasse
rien
rougir.
Rien du tout,
et un peu de tout, oui.
Ah bon, oui.
Là, si j'ai fait des livres sur l'histoire, c'est effectivement parce que je n'aime pas parler de moi. C'est ma forme de pudeur.
Ah, c'est rare, hein, les gens qui n'aiment pas parler de...
Bon, en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Vous-même, vous... Ça...
Non, ah bon. Mon histoire personnelle ne m'intéresse pas du tout. Voilà.
Vous la piochez chez les autres? Vous cherchez des questions, des réponses dans les histoires des autres?
Ah, je suis passionné par le fait de me mettre dans le regard de quelqu'un d'autre. J'adore la littérature pour pouvoir entrer dans la façon de raconter une histoire de quelqu'un d'autre. Et j'adore l'histoire pour entrer dans le regard du passé sur sa propre époque. Mon propre regard me concerne assez peu.
Quand je parlais de rareté en tant que moi-je personnellement, comment vous regardez, vous, parce que là on parle de pudeur, mais striptease collectif ou pas, mais de tout dire, tout montrer, tout écrire, tout raconter ses états d'âme ou de ses passes d'armes sur Facebook, sur les nouveaux réseaux sociaux, tout partager, qu'est-ce que ça traduit de la morale de notre histoire à nous et de notre rapport à la pudeur? Vous êtes Facebooké, vous, par exemple, Jean-Claude Bologne?
Non, pas du tout, pas volontairement. Quelqu'un m'a mis sur Facebook, mais...
Ah bon?
Oui.
C'est combien d'amis,
là? Je ne sais pas, mais je ne suis pas Facebooké.
Francine, vous êtes Facebooké?
Non.
Qu'est-ce que ça traduit?
C'est un changement de comportement que Serge Tisseron a très bien analysé en disant qu'on est passé d'une intimité à une extimité. C'est-à-dire que la définition que nous donnons de nous-mêmes dépend de moins en moins de notre propre regard que du regard que l'autre porte sur nous. Et qu'on se sent exister en se montrant beaucoup plus qu'auparavant. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. C'est le privilège de l'historien de ne pas avoir à juger.
Oui, bien sûr.
Mais c'est une caractéristique forte de notre époque et qui fait que lorsque j'ai écrit une histoire de la pudeur il y a 25 ans, on n'était pas du tout dans la même ambiance. Depuis, il y a eu le téléphone mobile, c'est terriblement impudique dans un train, il y a eu les webcams, la télé-réalité, il y a eu le loft. On a en 25 ans totalement changé son regard sur l'intimité et ce besoin d'exister à travers le regard collectif est un phénomène extrêmement récent et qui intéresse plus le sociologue que l'historien, mais qui fait qu'effectivement on ne peut plus parler de la même façon ni du corps, ni de l'intime, ni de la pudeur.
De l'intimité à l'extimité, forcément ça influence aussi le champ d'étude de la géographe, ces nouvelles technologies, ces territoires, j'ai envie de dire, mondialisés, virtuels et mondialisés, oui, en même temps, et
oui.
Virtuels. Ouais.
Alors, moi ce que je trouve intéressant dans tous ces exemples que vous avez cités, là, parce que finalement il y a des choses, que je trouve assez exhibitionnistes et...
Quoi par exemple?
La télé-réalité, les oui, choses comme bon. Ça. Bon. Après, il y a tous ces réseaux virtuels qui communiquent de l'information et qui communiquent de l'information de. J'ai envie de dire les. Maintenant, à partir du moment où on possède un téléphone portable. Mais même pas une petite webcam, on peut devenir journaliste, quoi. On peut devenir...
De journaliste...
Je fais exprès, oui. C'est une provocation.
Oui, effectivement.
Non, mais on a de l'information qui circule.
C'est des émotions qui circulent aussi, c'est au-delà de l'info.
Je pense à une chose quand même, parce que on parle du narcissisme, du Facebook, c'est le Facebookisme, là, c'est moi et moi.
Et les autres quand même,
et
mes milliers d'autres amis.
Mais qui m'aiment, moi.
Ah, oui.
Je pense à une chose extrêmement précise, lorsqu'il y a eu les événements en Iran, parce que j'ai beaucoup d'amis iraniens, et j'ai été en Iran, donc j'étais très sensible à ça, les événements
oui, filmés par les portables.
Liés,
oui.
Voilà.
Mais là, on
a eu des témoignages qui jamais n'auraient pu exister grâce justement à ces réseaux.
Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt effectivement le registre de la nouvelle technologie du moi-je. La notion de pudeur aujourd'hui, c'est complètement ringard, non ? Enfin, je fais exprès.
Non,
hein,
non.
Mais on l'entend, cette notion-là, c'est pas une notion
La pudeur corporelle est censée être ringarde. Et c'est un peu ce que nous disions tout à l'heure. On a l'impression que nous nous sommes libérés parce que nous avons enlevé nos vêtements et qu'on n'a plus le même regard honteux sur notre nudité. Mais je pense que nous avons beaucoup plus perdu dans d'autres domaines. Dans le domaine de la nudité, je reviens à cette hantise de l'épilation du bronzage, de la musculation, on a beaucoup perdu en remplaçant un voile du vêtement par un voile corporel inscrit dans notre corps et dans ce diktat d'une beauté standardisée, sophistiquée, qui est aujourd'hui le nôtre. On a beaucoup perdu, je pense, dans la pudeur dans la pudeur du sentiment. On a remplacé la pudeur corporelle par une pudeur du sentiment qui est beaucoup plus forte aujourd'hui, par une pudeur du regard, par toute une série d'autres pudeurs. La pudeur n'est pas ringarde du tout, elle change de terrain, de domaine simplement.
Je vous présente, messieurs, dames, Emmanuel Calma de Gmelin qui nous a rejoint en ce studio. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Alors Emmanuel nous ramène des histoires, des ambiances de petit matin, des sons de dehors, des portraits, des gueules, des ambiances, des histoires de métiers. Bah là on est un peu raccord d'ailleurs.
On est un peu raccord puisque je vais vous parler tout à l'heure de Chantal Rousseau qui est une costumière de renom qui nous a ouvert ses portes et ses placards. Que de belles choses en perspective, Laurence.
Donc voilà, avec des histoires de seconde peau, des histoires de costumes, ça pourrait intéresser à mon avis l'historien, les géographes. Que vous êtes.
Les pistolets, perroquets, règles japonaises, roulettes, évidemment ciseaux, craies, cutters, les poids qui servent à maintenir les tissus quand ils sont trop fuyants.
C'est le plan de travail ici.
Oui.
Hein.
C'est ma table de coupe. Je l'adore. Très souvent, il y a des morceaux de tissu qui sortent partout. Et puis, au fur et à mesure que ça se construit, je vais en tirer un, je vais le comparer avec l'autre, je vais le mettre à la lumière. C'est comme si ça nourrissait le costume.
Ah ben voilà le trousseau de la costumière, Manuela.
Oui, on est dans un des derniers ateliers de costumière qui existe encore en France. Chantal Rousseau est une des rares professionnelles à avoir pu conserver son lieu de création quand la majorité de ses consoeurs sont devenues des costumières volantes. On appelle ça les costumières volantes. Elle est à Bobigny dans le 93 et ce matin, c'est un peu la course parce qu'elle doit livrer les derniers costumes destinés à un festival baroque. C'est une séance d'essayage et de retouche de dernière minute.
Tiens, ces bacs-là, ils servent à me permettre de faire le thé, mais surtout pour faire ma teinture, parce que je suis teinturière avant tout.
Vous êtes teinturière,
hein ? Oui.
Donc et des grands bacs donc, pour...
Voilà, des grands bacs et dehors, on a les bassines à l'ancienne. Je teins en bassine, je teins à la main, quoi. Je fais presque toutes mes couleurs. Et voilà, j'ai tout mon petit matériel de teinture, là. Et puis alors après, il y a des boîtes de dentelle, des boîtes de rubans, des boîtes de galons, des tissus partout. Et puis les machines.
Le métier de costumière, c'est ça aussi, c'est de se construire petit à petit un trousseau de costumière.
Trésor de guerre. Oui, c'est-à-dire que... Dans les petits endroits, on trouve des merveilles, des surprises des fois. Tout au long de l'année, partout où je circule, les brocantes, les Emmaüs, quand on vit des châteaux, alors là, c'est le plus formidable. Je suis à l'affût. Puis maintenant, depuis des années, tout le monde sait que je récupère. J'ai des montagnes de draps anciens avec lesquels je fais tous mes fonds de costumes. Qui ont déjà beaucoup de vécu et qui sont très agréables à porter, qui absorbent la sueur, qui permettent aux costumes de vivre plus longtemps, quoi. Et puis je m'en sers aussi beaucoup pour faire des costumes rustiques, pour la paysannerie, pour les serviteurs. Donc les gens qui me connaissent m'apportent comme ça des trésors de temps en temps. Quand ils remontent de la campagne ou quand ils remontent d'une brocante, ils me disent « Ah, j'ai trouvé des choses, est-ce que ça t'intéresse ?» De temps en temps, je récupère des choses, les blouses grises de l'instituteur, le tablier du boucher, parce que ça, c'est les choses, quand je tombe dessus, je sais que je ne les trouverai plus. Mais j'ai pas de pièces déjà réalisées, puisque chaque fois que je réalise des choses, ça part pour les compagnies, et voilà.
Ça fait partie du jeu.
Oui, 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 ça fait partie du jeu. C'est toujours un peu triste, c'est très compliqué de réutiliser les costumes, parce qu'en fait, il y a une charge, la charge du comédien, la charge du rôle, et le transférer à quelqu'un d'autre, c'est toujours très, très difficile. Les comédiens n'aiment pas trop ça. Déjà, et même un metteur en scène a du mal à passer un costume d'une pièce à l'autre.
On a l'impression que vous parlez un peu d'une seconde peau ou quelque chose de vivant. Hein.
Ah, ça c'est sûr. Bah, déjà, c'est une grande partie de ma vie, justement, parce que je chine, et puis que quand on rentre en création, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus d'horaire. Comme ça, pendant un mois et demi, deux mois, ça dépend de l'ampleur de la création. Et puis après, on retombe. C'est un mode de vie comme ça.
Voilà, c'est un petit jardin.
Oui, vous êtes nichée dans un petit jardin.
Oui. Ça, bon, voilà notre comédienne qui arrive.
J'ai hâte de voir ma robe.
Vous l'avez pas vue encore, la robe ?
Si, j'ai vu le début, et là, elle est déjà... c'est les finitions, puis elle est magnifique, avec toutes les perles de jet.
Vous avez des étoiles dans les yeux ?
Oui.
J'étais en train de broder tes petites boutonnières. En fait, moi, je suis très en lien avec ceux que j'appelle les créateurs, les vrais, c'est-à-dire les auteurs, les metteurs en scène, les musiciens, et c'est ce que m'apporte, qui m'inspire en général. Et c'est de là que je tire ma nourriture, finalement. Qu'est-ce qui est le vêtement et qu'est-ce qui devient un costume ? C'est vraiment ce passage-là qui est le plus sensible pour moi et le plus important pour moi. C'est ça qui fait le moment de l'entrée dans la magie, finalement. Quoi.
C'est là où il y a, quelque part, le prolongement un peu du corps.
Mmh. Ah, oui, oui, oui. Et de l'univers aussi, de l'univers onirique. Bon, alors moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, là. Oh. Pardon. Je vais te serrer un peu, Armel.
Vas-y, serre.
Ça va, tu vas pouvoir respirer comme ça ?
Ça va. Non, c'est magnifique.
C'est votre monde qui est devant vous, là ? C'est votre univers ?
Ah oui, oui, complètement. Complètement. La couleur est mon maître mot. Quand vous rentrez dans un appartement, les couleurs racontent des choses, et sur les vêtements, les couleurs racontent des choses. Et puis j'aime bien les tissus qui ont une vie, qui ont une histoire, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aller les récupérer dans différents endroits, et je pourrais vous raconter les histoires de chacun de ces tissus.
Vous avez conscience, Armel, que vous portez des petits trésors parfois ?
Oui, complètement. Complètement. Et oui, vraiment, c'est vraiment rare un costume comme ça. Non, mais toutes les finitions, je l'avoue que je ne connais personne comme elle.
Je suis parfaitement bien dans mon costume.
Comme à chaque fois que j'ai eu un costume fait par toi, je suis tellement bien dedans que j'arrive plus à les quitter.
Quand le simple vêtement devient costume, elle s'appelle Chantal Rousseau. En tout cas, elle parle de son métier avec passion.
Avec passion. Ouais. Et Armel Roux, donc la musicienne qui joue du clavecin qu'on entend, a du mal à quitter cette seconde peau. Hein,
vous avez ramené là des photos, des cartes postales. Les femmes savantes, forcément, avec les costumes de
les
Chantal
savantes.
Rousseau. C'est impressionnant, des tableaux. Hein.
Ouais, je précise que donc le spectacle a lieu dans le cadre des éclats baroques au théâtre de l'épée de bois jusqu'au 18 décembre. Et je vous invite à aller voir tout ça, c'est vraiment magnifique.
Ben voilà, pour l'amateur des jeux de langue que vous êtes aussi, Jean-Claude Bologne, n'est-ce pas?
Ah, je suis linguiste de formation, mmh. Oui, le français du 17e est une des plus belles langues qui soit. Oui. Je suis plutôt spécialiste de l'ancien français 12e siècle. Mais... Ça va, le 17e me convient encore.
Et on parlait là de costumes, de théâtre, de seconde peau. Est-ce que quelque part on peut dire aussi à quel moment on a sexualisé le costume, le vêtement, et à l'inverse, on a désérotisé la nudité. Autrement dit, pour faire simple, la mini-jupe, c'est plus sexuel qu'être à poil, tout simplement.
Alors, sexualiser, alors on a sexué le vêtement à partir du XIIe siècle. C'est à ce moment-là que, lorsque les hommes commencent à porter des robes plus longues, ils commencent à avoir des costumes qui se rapprochent de ceux de la femme, et les moralistes s'indignent en disant mais il y a un vêtement féminin, un vêtement masculin. Et lorsqu'au XIVe siècle, les hommes commencent à avoir des costumes plus courts et avoir des bas extrêmement moulants, des choses extrêmement moulantes, là il y a un véritable costume masculin et féminin qui s'impose. Alors c'est une sexuation qui existait dans l'Antiquité sous d'autres formes, mais dans le costume occidental il y a vraiment une rupture entre le XIIe et le XIVe siècle qui fait qu'il y a un costume masculin, un costume féminin, un costume de fonction, un costume civil. Tout ça se constitue à la fin du Moyen-Âge. La sexualisation du costume, c'est que le fait que le costume soit plus érotique que la nudité, c'est une très très vieille idée aussi. Montaigne racontait l'histoire de ces femmes du royaume de Pégu qui s'étaient rendu compte, paraît-il, que leur mari se détournait d'elles parce qu'elles étaient toujours nues et qu'il y avait une certaine homosexualité qui y craignait. Et elles se sont mises des caleçons, elles ont inventé le caleçon pour que le regard de l'homme se reporte sur elles, et le costume les a resexualisées. Donc c'est une très vieille idée qui est celle de l'île aux pingouins d'Anatole France, qui est très amusante pour l'histoire du naturisme, parce que c'est la situe au début du siècle. Un explorateur découvre une île où les pingouins vont nus, c'est un missionnaire, il va apprendre aux pingouines à mettre à se vêtir, à mettre des caleçons, et du coup tous les pingouins se mettent à forniquer parce que le seul fait d'avoir vêtu les pingouins les a rendus désirables, beaucoup plus désirables pour les pingouins. Donc le vêtement, oui, est érotique.
Francine Barthes, vous connaissez bien la planète naturiste. Vous avez monté un blog aussi, non? J'ai vu sur l'art du nu dédié aux naturistes, non? Imagina.
Non, c'est Imaginat, non, c'est un Imaginat. Blog. C'est un blog. Je participe à ce blog et c'est une association aussi qui fait la promotion des artistes naturistes et qui organise des expositions, des choses comme ça. Mais
En quoi les naturistes, vous avez l'impression qu'ils sont plus écoutés aujourd'hui, toujours aussi raillés ou pas, ou notre regard des textiles sur les antitextiles, vous qui connaissez bien cette planète-là, en deux minutes, dites-moi, Francine. Oula.
Est-ce qu'ils sont plus raillés, ou moins est-ce que c'est...
Ouais, en quoi notre regard a changé sur eux ou pas, ou est-ce qu'on est toujours dans un...
Ah, je pense que le regard a changé, mais le naturisme a changé aussi. C'est-à-dire que... maintenant, il y a davantage de ce qu'on appelle du nudisme sauvage, hein, c'est-à-dire qu'on va plus volontiers se trouver un endroit à l'abri des regards où on va se mettre nu pour se baigner parce que c'est tellement plus agréable, et puis sur des lieux de vacances, des choses comme ça.
Toujours le fameux regard de l'autre.
Hein. Surface.
Ils sont bien réveillés depuis 5h du mat et ils sont là pour vous réveiller. Jean-Claude Bologne, historien des pudeurs. Francine Barthes, géographe de la nudité. Après quelques minutes, les yeux fermés sur le canapé rouge de notre studio. Ça va mieux? Il y a besoin à un moment donné de... Fouf.
À force de carburer au café, on finit par devoir se relaxer.
Oh, Francine, elle en a juste pris un litre, hein, je crois. On écoutait le journal de Pierre-Louis Castelli. Vous me souffliez ces vieilles pudeurs tenaces aussi qui existent encore aujourd'hui. Alors, on écrit des mails, des slams, sans pudeur, on se raconte. Mais par contre, écrire des poèmes, des poésies, ça reste un acte pudique qu'on n'ose pas dire.
Ça reste ou ça devient C'est très étrange quand vous lisez des témoignages du 19e siècle. On écrit ses premiers vers, on va les montrer. Aujourd'hui, un adolescent qui écrit ses premiers vers a plutôt tendance à les cacher. Il y a une pudeur de la poésie, oui.
Ouais, en même temps, on flatte peut-être pas les parents ne flattent pas forcément peut-être cette prose-là. On parle toujours du regard de l'autre, du regard fantôme.
Non, il y a des proses qui sont suscitées, même des proses intimes qui sont suscitées. Le journal intime est une création, par exemple, de la médecine du 19e siècle, qui incitait les jeunes filles à se dévoiler, à parler d'elles-mêmes dans des journaux intimes. Une floraison de journaux intimes au 19e siècle qui sont des écritures suscitées. La poésie est une écriture personnelle et donc le premier réflexe, aujourd'hui en tout cas, c'est plutôt en général de la cacher. Et d'ailleurs, on se cache derrière la métrique pour ne pas avoir cette pudeur de la poésie. Oui, on a des concours.
Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours un jeu de cache-cache finalement. On se voile, on se cache. En même temps, on se raconte énormément. On parlait du striptease collectif de Facebook. On se raconte, on poste ses émotions et en même temps, on dénonce le flicage, on appelle au droit à l'image, c'est toujours un jeu comme ça de cache-cache, non?
Non, on se rassure dans le collectif. Ce que tout le monde fait, on peut le faire. Mmh. Et le fait de faire la même chose
que les autres,
ce sont des attitudes d'intégration au sein d'un groupe, de reconnaissance au sein d'un groupe. En revanche, ce que l'on ne supporte plus, effectivement, c'est le censeur, ce sont les règles extérieures. Mais chaque groupe invente ses propres règles, y compris pour la pudeur, oui.
Et donc, toujours en compagnie de Jean-Claude Bologne et Francine Barthes, qui à mon avis va aller se recoucher d'ailleurs. Imaginons tout est possible dans cette émission, vous aussi, comme Stéphanie, vous pouvez réveiller un célèbre défunt pour l'interroger sur les pudeurs d'aujourd'hui ou d'hier ou pas, ou juste pour se faire un petit plaisir comme ça de rencontrer quelqu'un qui vous a marqué ou pas. Ce serait qui, Jean-Claude Bologne, par exemple?
La difficulté, c'est de n'en avoir qu'un seul.
Ah, les deux.
Non, j'avais joué le jeu. S'il y a quelqu'un que je voudrais ressusciter d'entre les morts, ce serait Jacques Brel. C'est toute mon enfance. L'interviewer et de lui dire quelque chose, peut-être, je pense que je serais muet devant lui. Partager un silence, oui.
Partager un silence avec Jacques Brel.
Un silence complice.
Et là, Jacques Brel, il pouvait incarner des notions de pudeur, d'impudeur, pudeur des sentiments, pudeur...
Oh, je ne me poserai même pas
ça. Ça n'a rien à voir avec le travail, là, c'est juste pour le plaisir.
Je vous ai dit que j'avais des pudeurs personnelles, mais là, c'est très impudique pour moi, ce que je vous dis.
Ah, ça y est, dès que vous parlez de vous, la première personne. Donc Jean-Claude Bologne aimerait partager un silence avec Jacques Brel. Et Francine, alors, Barthes.
Alors, écoutez, j'ai... Pendant tout le
temps de
la présentation d'Arletty, là, que j'ai trouvé formidable, j'ai trouvé avec qui j'aimerais parler. J'aimerais parler, moi, en fait. Hein. J'aimerais
oui,
discuter,
bah,
j'aimerais avoir
des
informations, là. Parce que ça m'a posé des tas de problèmes, cette personne. Alors, moi, je choisis évidemment de faire renaître une femme.
Qui?
Alexandra David-Nel, cette grande aventurière, spécialiste du Tibet, qui est arrivée en Chine en clandestinité, à pied du Tibet, qui était en plus une érudite, qui est revenue en France et qui est morte à Digne, à 101 ans, je crois. Et voilà, j'aurais voulu lui demander comment est-ce qu'elle a tenu le coup dans les neiges à 6000, 7000 mètres sans avoir rien à manger, en se déguisant, en mendiante. Et comment elle s'est débrouillée, comment elle a rusé, là, parce que c'est être une femme européenne qui laisse son mari à Londres, mais qui lui demande quand même des sous, hein, parce qu'il faut tenir le coup. Qui était libre, enfin, qui était et en même temps qui était une mystique. Enfin bon, c'est un personnage avec qui j'aimerais bien discuter.
Eh ben voilà, on a les aventuriers, les aventurières qu'on mérite aussi. Dites-moi, nous arrivons au terme de ce 5 à 7 version matin. Une question que l'un aimerait poser à l'autre rapidement, une réflexion de la géographe sur l'historien, de l'intimité, de l'intime sur la spécialiste de la nudité très rapidement.
Je vous laisse la parole.
À quand votre prochain ouvrage?
Sur les pudeurs masculines, d'ailleurs, Jean-Claude Bologne.
Ce n'est pas impossible, ce sera un ouvrage beaucoup plus court.
Ah enfin, ouais.
Mon prochain ouvrage sera dans la suite de celui-ci parce que je les ai conçus ensemble. Je n'en dirai pas plus, mais ce sera sans doute pour l'année prochaine. Oui.
L'homme n'est pas assez pudique pour en faire 500 pages.
Et il y a d'autres choses qui sont intéressantes chez l'homme et mon prochain ouvrage sera plutôt dans la sensibilité masculine, oui.
Ah, l'homme est un être sensible. Les pudeurs, je plaisante, féminines, c'est au seuil avec Jean-Claude Bologne et Francine Barthes. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir joué le jeu et de vous être levés aussitôt dans le noir et le froid. Grand merci à Stéphane Le Guenec à la réalisation, Nathalie Poitevin, notre poupette rédactrice en chef, c'était Jean-Baptiste Olibert qui signait la partition et toutes les références sur le site du 5-7 du week-end, et la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Demain, pour notre portrait au saut du lit, le philosophe au point levé, Alain Badiou, avec l'âge, la colère, la révolte, vous verrez, ça ne se calme pas.
Nous savons que quelque chose du vieux monde, de l'émancipation elle-même, est un peu clos. Et le nouveau monde, on ne le voit pas trop. Ce dont nous héritons est une image brouillée. Et avec cette image brouillée, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on avance quand même. Et nous autres vieux, nous n'avons plus qu'à aider avec nos souvenirs actifs à l'accouchement de ce qui viendra après nous.
Philosophe radical, toujours philosophe de l'émancipation, Alain Badiou, demain pour le 5-7 du matin. En un mot, c'est insurgez-vous. Insurgez-vous, non, Jean-Claude Bologne, il faut s'insurger ou pas, Francine Barthes, avant de partir?
Oui, il faut toujours s'insurger parce qu'on a besoin de digues, pour reprendre le terme de Freud. Et donc, il faut des digues pour pouvoir s'insurger et s'insurger pour reconstruire des digues.
On a besoin de digues, très chère Francine Barthes. Ah oui, écoutez, on va y réfléchir, très calmement. Bon réveil, France Inter, bientôt 7h.